Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes absolument incroyables le lundi 21 juin, les 8h30, aux joies de la fête de la musique, qui est interdite partout d'ailleurs, enfin voilà, j'ai rien compris moi ce qui va se passer aujourd'hui, on a pas le droit à plus de 6, machin, truc, enfin bon bref, c'est encore du n'importe quoi, mais bon, il est au son ce que l'abstention est aux élections record de France, à la technique Corto, salut.
Salut Ben, salut à tous, merci pour cette petite flatterie.
Au programme de cette matinale, nous sommes en plateau en direct avec Laurine, Valentin et Samy. Bonjour à tous les trois.
Salut Ben.
Le projet Vadrouille ou les balades sonores sur le Mont Lozère démarrent dans une dizaine de jours. Merci d'être avec nous, on va en parler dans un instant. C'est lundi et presque comme tous les 15 jours, il a le chic de m'appeler le dimanche à 23h pour me dire qu'il vient en direct, que j'ai pas le choix, et ce, dans l'unique but de pourrir ma semaine. Raphaël, bonjour.
Bonjour à tous.
Histoire brève, de quoi on parle aujourd'hui?
Nous allons parler de l'an 69.
D'accord, je vois un peu le délire. Et en dernière partie d'émission, Sophie, Laurane et Céline nous rejoindront pour un tout autre sujet, les perturbateurs endocriniens. Voilà, pour le programme, les perturbateurs endocriniens, ça fait flipper, j'ai flippé, mais bref, elles vont aussi nous rassurer. Il y aura de la musique comme d'hab, mais on commence bien sûr par l'édito Corto, si tu veux bien.
On peut être en désaccord, mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Ah, les amis. Moi, j'ai vu les résultats des élections ce matin. Hier, il y avait une panne de réseau. Mais en tout cas, rien de neuf sous l'orage. Hein, pas de surprise. L'abstention à donf. En même temps, vu la hauteur du débat politique, tu m'étonnes que les Français, bon an, mal an, ne vont pas aller s'emmerder à voter. Non. Et puis, sans déconner, les médias vous le rabâchent tous les jours depuis des semaines. Allez voter. Bon, c'est très bien tout ça. Il faut voter. Oui, c'est vrai. Hein. En tout cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ils ont oublié un truc super important, sans déconner. Pour qui ? La question qui se pose depuis pas mal de temps, c'est est-ce que la politique est un métier ? Est-ce que faire de la politique, ça doit être un métier ? Ben ouais, et puis pour qui voter, sérieusement ? Abstention record, ce qui fait que Mediapart a titré « Déprime civique, tu m'étonnes ». C'est la grande gagnante de ce scrutin, l'abstention. Et elle rend caduque toutes les analyses conclusives sur les forces en présence. Les responsables politiques qui se sont exprimés se sont unanimement inquiétés de cette situation, sans pour autant en tirer les enseignements politiques. Manquerait plus qu'ils se remettent en question. ça, tu parles. Pourtant, cette abstention vient d'abord les sanctionner, eux. Eux qui, pendant deux semaines, ont fait campagne sur des sujets très éloignés des enjeux de ce scrutin, à commencer par la sécurité, qui n'est pas une compétence de la région, mais dont beaucoup de candidats avaient fait leur priorité. Polémiques, tractations politiciennes, omniprésence des sondages, les débats ont été dictés par le seul agenda de l'extrême droite, face auquel Emmanuel Macron se présente comme le seul rempart. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Il y a comme un truc qui a pas marché hier. Ça doit être l'orage, sans doute, qui a tout fait péter. Allez, on parle du projet Vadrouille dans un instant. On écoute d'abord Dutronc, l'opportuniste. Je retourne ma veste, tu m'étonnes.
Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme. Parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. De toutes les parties, je je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Et je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, celui de retourner ma veste, mais toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné, qu'elle le craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
L'humour de Dutron, l'opportuniste, de retour en plateau avec Laurine, Samy et Valentin. L'équipe du projet Vadrouille, ça commence, bah, genre dans bientôt. Hein. Le projet Vadrouille, c'est une balade sonore sur le Mont Lozère. Et la première, c'est le 1er juillet.
Le 1er juillet, c'est pas la première officielle. C'est la première qu'on fait avec les courageux qui vont venir nous suivre dans une grande marche entre le Bleu-Marin et le pont de Montvert. Mais c'est vraiment plus en interne pour que les acteurs après locaux puissent communiquer sur le projet.
Alors, à quelques jours du lancement de ce projet qui a quand même pris un peu plus d'un an déjà, et ça va, prêt ?
On espère.
Non, parce que forcément, on a tous vécu une période assez bizarre, il a fallu vous adapter. Comment vous avez fait là, parce que vous avez bossé aussi avec une école primaire là au pont de Montvert. Comment ça s'est passé pour vous cette année ?
Ben, plutôt bien, je pense, par rapport à plein d'autres gens et du confinement. À part avec l'école avec qui on a eu peut-être un peu de retard de calendrier, des ajustements, parce qu'il y avait toute une partie où les enfants allaient enregistrer les aînés ruraux du pont de Montvert, donc qui étaient plutôt âgés. Du coup, le contexte ne permettait pas tellement de pouvoir les voir à ce moment-là, mais sinon, on n'a pas été tellement impactés, je crois.
Non, on n'a pas été impactés. Et en fait, même par rapport à l'école, il y avait vraiment une volonté de la part des élèves de continuer le projet. Donc, dès qu'il y avait un petit créneau, on arrivait à s'immiscer et à faire nos ateliers.
Y en a peut-être qui ne connaissent pas le projet, le principe. Le projet Vadrouille, au pire, ça réveillera Corto. C'est quoi le principe de Vadrouille ?
Vadrouille, c'est 7 créations sonores documentaires qui viennent ponctuer 2 chemins de randonnée autour du Mont Lozère, donc le GR7 et le GR70. Et de manière d'écouter, avec une application ou un casque et un MP3 qu'on peut prendre dans les offices du tourisme du coin. Et des séances d'écoute qui vont avoir lieu tout l'été, un peu partout, autour du Mont Lozère, vers Florac, enfin, autour d'ici.
Quand j'ai dit que ça allait te réveiller, Corto, c'est pour que tu passes le petit extrait teaser, c'est parti.
Con lo buie vede l'aura, con lo buie vede.
Si nous regardons dans le passé, le Mont Lozère a une histoire très longue.
Gaillotte ! Hey, c'est fermé là-bas, il n'y a pas la grille.
Tout le monde se tait, et là on se dit, ça y est, il va se passer quelque chose.
On est au pont de Montvert, on est bien, on est sur la plagette.
Quand on n'est pas, quand on est d'ailleurs, vous comprenez, venir se fixer là, il faut y rester, car de barrière, on est obligé, on se fixe là, on peut pas. C'est un travail qui vous tient, il faut être toute la journée.
Mon cœur de brebis naïve créature se vide de son sang pour lui.
C'est pas les plus légers du marché.
Ils sont pas mauvais, c'est des bons agneaux, mais ils sont tendres, ils sont jeunes.
Ah
c'est
tout, mais ils pèsent mes agneaux.
Vadrouille, cette création sonore documentaire autour du Mont Lozère.
À écouter à partir de juillet sur les chemins de randonnée et en séance d'écoute.
Plus d'infos sur lundisoir.org
ou sur notre Facebook Projet Vadrouille.
Voilà pour le petit teaser de ce projet Vadrouille. Donc, vous l'aurez compris, c'est cette création. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une application ou le MP3, ça tu l'as dit. Et puis, on se balade. Et là, il y aura un point et on mettra la première écoute et ainsi de suite. Tout ça le long du parcours, c'est ça?
C'est ça. Et en fait, les points, c'est des pierres gravées, qui ont été gravées par Lonan et Bastien, qui indiquent aux marcheurs et aux marcheuses endroit où il faut s'arrêter pour écouter la création. Et en général, il y a un contrepoint, une résonance entre ce que tu as sous les yeux au moment où tu l'écoutes.
Ici, c'était pêle-mêle des choses que vous avez tirées de cette créa, c'est ça que vous avez fait ici? Pour le petit teaser, je parle?
Oui, bien sûr, oui. Ouais, il y a des extraits de chacune des créations. Et voilà, qu'on a entremêlés. Et puis à la fin, c'est une petite signature sonore qu'on a accaparée au projet.
Alors, j'oublie à chaque fois le mot, vous me l'avez dit 200 000 fois depuis qu'on se connaît. La technique de restitution du son, c'est
binaural.
Binaural, j'étais presque. concrètement, c'est quoi?
C'est une technique qui... les projets ont pour but d'être écoutés au casque. Donc c'est une technique qui permet de reproduire une spatialisation 3D en écoutant au casque, donc d'avoir l'impression que les sons peuvent venir de l'arrière, du dessus. Et ça marche très bien sur des sources sonores ponctuelles. Mais là, dans le cadre des créations, c'est plus pour donner un côté plus immersif. Et notamment à un moment où on recrée une tourmente, donc d'essayer d'avoir l'impression qu'on est complètement pris au cœur des vents qui tournent autour. Donc voilà, ça donne vraiment un peu plus d'espace. Je trouve que sur la création des brebis avec les brebis, des moments où on est dans la grange aussi, on a vraiment... Une sensation d'ampleur, quoi.
C'est mieux d'y aller avec un gros casque ou avec les écouteurs de téléphone, de smartphone, portable, ça marche?
L'ingé son que je suis, je dirais, prenez un bon casque. Prenez les casques du Blémard et du Pont de Montvert. Non, ça marchera aussi sur écouteurs, mais évidemment, on est moins enfermé avec des petits écouteurs, sachant que c'est des créations qui vont s'écouter en extérieur. Mmh. Donc...
Alors, on va essayer d'être un peu synthétique parce qu'un an de résidence à raconter, ça peut prendre un an en fait. Mais comment vous avez travaillé finalement, comment vous êtes organisé? Alors d'ailleurs, est-ce que vous étiez organisé? J'aurais dû commencer par ça.
Ça, c'est la bonne question de départ. Je ne sais pas tellement si on peut dire qu'on était organisé. Comment on s'est organisé? Au départ, c'était un projet qu'on avait écrit avec Samy. Avec la volonté d'aller faire du son dans les parcs naturels régionaux ou parcs nationaux, enfin de proposer cette idée-là, mais vraiment avec l'idée, parce que tu disais tout à l'heure, l'idée de balade sonore, je crois que c'est une nuance qu'il faut apporter. Nous, ça nous intéressait que ça vienne ponctuer la marche à certains endroits des chemins, mais que ça accompagne pas le marcheur ou la marcheuse tout du long, parce que pour avoir fait tous les trois de la randonnée, on se disait que nous, en tant que randonneurs ou randonneuses, on n'avait pas forcément envie de marcher avec un casque sur les oreilles, et qu'il y avait plein de belles choses à écouter autour de nous. Donc voilà, c'était vraiment l'idée que ça vienne comme une ponctuation à la marche. Je crois qu'on l'a pensé comme ça au départ. Et voilà, donc on s'est mis dessus avec Samy en janvier-février, il y a un an et quelques. On a répondu à un appel à projet qu'on a gagné après plusieurs... des étapes un peu longues qui ont été beaucoup retardées avec tout le...
Voilà. Ouais. Je crois qu'il n'y a même plus besoin de finir cette phrase.
Ça, c'est ça. Et puis voilà, Valentin a rejoint l'aventure aussi. Enfin, dès le départ, c'était l'idée aussi qu'on travaille tous les trois parce que nous, on avait déjà travaillé ensemble et on aimait bien ça. Donc on s'était dit que ça pouvait être super de continuer tous les trois. Donc on est arrivés... l'été dernier, et puis voilà, en vadrouille pendant un an. Je sais pas à quel point on doit rentrer dans les détails, mais ce sera peut-être un peu long.
En tout cas, de rencontre en rencontre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ici pendant cette année et demie, même presque?
La générosité, peut-être. Non, mais on est tombé sur des gens qui nous ont offert tellement de choses tout le temps. Et puis, par exemple, dans le cas des prises de son, je suis tombé sur deux personnes, Philippe Lucas et Grégory Chaming, qui sont... naturalistes et qui sont aussi passionnés de prise de son, et en fait tomber sur un territoire et avoir des personnes qui comprennent exactement les enjeux que tu vas avoir, et qui, comme on a des créations, on a eu pas mal d'enregistrements à faire dans la nature qui ont été des atouts, des alliés hyper précieux, quoi.
Je pense que sans les gens ici, on n'aurait pas fait le projet qu'on a fait. Enfin, on verra quel retour on aura, mais en tout cas nous, je crois qu'on est assez fiers de en tout cas du partage que ça a été et voilà, et les gens qu'on a, je pense que c'est ça qu'on retient, les rencontres. C'est peut-être un peu bateau, mais c'est quand même assez juste.
Ah oui, oui, moi j'aime bien aussi, carrément. En tout cas, c'était un plaisir de faire votre rencontre ici aussi. Donc, comme ça. Alors, l'application, on va quand même en parler un peu. Parce que, voilà, comment vous l'avez développée? Parce que je me dis que ça doit être aussi un gros boulot et que c'est un boulot à part entière.
Oui, alors c'est pas du tout notre métier de développer des applications. On a vraiment externalisé la chose. On a fait appel à Jacques, qui a une boîte. Il fait des applications pour des balades sonores dans d'autres parcs régionaux. Et voilà, on est tombé sur son travail. Et donc lui, il développe vraiment l'application. Et on a un graphiste, Charles, qui a fait toutes les illustrations et qui a fait notamment les logos, les dessins qui seront sur les pierres à poser le long des chemins de randonnée.
C'est, voilà. C'est des dessins qu'on retrouve sur l'application. Ouais. Ouais.
Donc je prends mon smartphone, je tape vadrouille. Là, je vais avoir l'application à installer. Et après, c'est parti, quoi.
Ouais. Exactement. Oui,
exactement. Elle n'est pas encore en ligne, l'application. Elle est parce que nous, on est en train de terminer les créations. Enfin, on est vraiment en train de peaufiner les mixages. Je crois qu'on aura terminé aujourd'hui d'ailleurs. Donc, elles seront envoyées aux développeurs web en fin de journée et après le temps que ce soit accepté par les stores, il y a quelques jours, je crois, avant vraiment la mise en circulation et en ligne de l'appli.
Accepté, c'est-à-dire qu'ils doivent la
valider. Je crois qu'ils doivent la valider, ouais. Voilà. Il y a tout un processus de, ouais, de validation.
Intéressant. Alors, il va y avoir quand même plein d'événements là, qui vont se passer un peu cet été hein, pour vous. Qui se lance?
Je peux commencer. Donc, tout à l'heure, tu disais que la sortie de résidence était le premier. En fait, c'est le 10. Le 10 juillet à 18h dans le jardin du temple du pont de Montvert. Donc c'est vraiment la restitution officielle, voilà, avec les gens du parc, tous les financeurs du projet. Et après, l'idée, c'est qu'on le fasse vivre aussi, tu vois, d'autres manières, et pas seulement lors de cette restitution, où en plus les places sont un peu limitées, je crois qu'il y a une centaine de personnes, pas plus, qui peuvent rentrer. Donc il y a plusieurs dates. Il y a le mardi 13 juillet au Théâtre de Verdure de Florac à 19h.
Le 11 déjà.
Oui, le 11, toute la journée, pardon, au pont de Montvert. Donc là, ce n'est pas une restitution, ce n'est pas une écoute collective. Les gens peuvent passer, prendre aux enceintes ou en casque au MP3, on ne sait pas encore cette journée, mais s'asseoir et écouter les créations et on sera là pour en parler. Mais sinon, vraiment, en écoute collective, il y a le mardi 13 juillet, 19h, au Théâtre de Verdure. Le jeudi 15, 19h aussi, aux Traces de Dinosaures à Saint-Laurent-de-Trèves. Le 26... à 19h au labo au Mas-Méjean chez Cyril, et le 29 à la station de ski du Mont-Lozère au refuge à 19h aussi.
Tiens, justement, tu parlais de Cyril, on va en dire un mot quand même, qu'on comprenne. Cyril, il a ouvert un lieu de résidence ici.
Ouais, il a ouvert un lieu de résidence au Mas-Méjean, donc après le pont, et nous on avait un partenariat avec lui, parce que notamment dans le cadre des ateliers qu'on faisait avec l'école du pont de Montvert, on était en résidence chez lui quand on avait ces semaines d'atelier.
Voilà. C'est un super lieu où il accueille plein d'artistes en résidence. Lui, il vient plutôt du monde du spectacle vivant, du théâtre. Et vraiment, le lieu est assez incroyable. Enfin, ça nous tenait à cœur aussi de faire quelque chose là-bas, parce que c'est vraiment très, très chouette ce qu'ils en ont fait. Et puis, n'hésitez pas à aller voir, parce que ça vaut le détour.
En tout cas, tous les événements, auditeurs et auditrices, si vous devez retenir une date, ce sera le 10 juillet au Pont de Montvert, parce que là, on va bien se marrer, et on y sera aussi avec Radio Artas. Oui, oui, oui. Voilà, parce que vous nous citez nulle part, donc faut bien le faire. Non, je déconne. En tout cas, je mets évidemment toutes les dates sur notre site, et si vous voulez plus de renseignements, c'est sur lundisavoir.org ou sur la page Facebook Vadrouille, tout simplement.
Projet Vadrouille.
Projet Vadrouille, d'accord.
Sans itréma, parce que ça ne marchait pas.
Je mets le lien sur notre site. Est-ce que vous êtes prêts pour l'interview détente?
Toujours.
Allez, on y va, jingle. C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Non, on doit parler français. Sinon, je me fais disputer. Le livre que vous avez choisi, les amis.
Alors, pour le livre, on a choisi Histoire d'une montagne, de Élisée Reclus, parce que c'est un livre qui nous a vachement inspiré pour une de nos créations, qui est une création qui met en parallèle quatre saisons au cours donc de notre année de résidence autour du Mont-Lozère, et qu'on a assimilé à quatre éléments, notamment parce que quand on a commencé l'été dernier, on était focalisé sur les sons beaucoup autour de la faune, quoi, beaucoup autour des animaux, et en lisant ce livre, on a remarqué qu'en fait, Élisée Reclus, qui est géologue, qui se caractérise lui-même comme géopoète, en fait, il a une vision très très belle de la montagne. Il décrit les minéraux, il décrit l'eau, il décrit les peuples montagnards. Et donc, c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, Parler d'une montagne, parler de quatre saisons au cours d'une montagne, c'est pas s'intéresser seulement à la vie animale, mais aussi à tout ce qu'on peut avoir comme le vent, l'eau, les pierres.
Mmh. Et la géopoésie, j'adore le concept.
Fervent anarchiste aussi.
C'est ça, et on se disait qu'à Bartas, un auteur anarchiste, ça le faisait. Considéré aussi comme le père de la géographie d'ailleurs. Il disait reclus.
Oui. Ça, c'était la connaissance de Raphaël qui a amené sa petite touche. Je me la pète. Voilà, non. Merci beaucoup. Le film que vous avez choisi.
Alors, le film, on a choisi un documentaire qui s'appelle L'Esprit des lieux, qui est sur Tank en ce moment. On s'est dit que c'était une bonne occasion de parler de Tank, qui est une plateforme de documentaires en VOD, avec que des très très beaux films à chaque fois. Et L'Esprit des lieux, c'est un film sur le travail de Marc Namblard, qui est audio-naturaliste, que nous, on a rencontré au début de notre projet, parce qu'il fait partie de l'association Sonatura. C'est que des gros geeks du son et de la nature et qui font plein de super prises de son. Enfin, c'est des audio-naturalistes incroyables, dont Greg et Philippe font partie aussi. Et c'est une super asso. Et c'est un film sur son travail à lui et le pouvoir du son, de l'écoute et de la transmission. Notamment parce qu'il transmet toute sa passion à sa petite fille de 8 ans. Et c'est vraiment un film super qui est encore sur Tank pendant 3 jours. Donc on trouvait ça chouette de le dire aussi parce que ça permet de découvrir la plateforme, qui est une belle plateforme.
L'Esprit des lieux. Peut-être un commentaire, monsieur Boudère.
Ça fait penser à L'Esprit des lois de Montesquieu. Parce que c'est un petit peu le pendant.
Et enfin, la musique, le groupe ou la chanson que vous avez choisi.
La musique. Alors, au début, on avait pensé à une musique de Pierre Facchini parce qu'on l'avait écoutée ici dans le temple à Florac et qui vit dans les Cévennes. On s'est dit que pour un lundi matin, c'était pas assez punchy. Et donc, on a choisi When I Fall in Love des Scatalites. Parce qu'on est d'humeur un peu amoureuse en plus.
It will be forever.
Exactement. Ouais.
En tout cas, bah, on va l'écouter juste après. Tiens, après le petit truc, là, je ne sais plus ce que c'est, une chronique, je ne sais plus. Vadrouille, officiellement, ce sera le 10 juillet au Pont de Montvert. Voilà, à 18h, c'est ça qu'on a dit.
À 18h, dans le jardin du temple.
Pas intérêt à être à la bourme. les infos, c'est sur lundisoir.org ou sur leur page Facebook. Projet Vadrouille, son tréma. Là, on est clair.
Là, ouais. On est clair.
Parfait, Ben.
Merci beaucoup, les amis.
Merci, Ben.
Merci à toi.
Laurine, Samy et Valentin du projet Vadrouille. Raphaël, t'es chaud ?
Oui, ça va.
Allez, on y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève.
Histoire brève.
Alors que l'été s'annonce et que les températures ne font que monter en flèche, j'ai eu l'idée, moi aussi, de faire grimper le thermomètre jusqu'à des chaleurs inégalées durant cette matinale. Pour cela, je vais vous parler d'une année qui fut ô combien sulfureuse. Une année qui retourna dans tous les sens, en un véritable tête-à-queue, tout un empire. Cette année-là, c'est l'an 69 de notre ère, évidemment. Ah, monsieur de Paris, je vois tout d'un coup votre œil jusque-là morne éterne, encore embrumé, prisonnier des turpitudes de ce long week-end que vous passâtes entre les mains des démons de la fête, tout d'un coup s'illuminer, rutilé tant l'évocation de l'an 69 réveille chez vous quelque chose. De quoi s'agit-il ? Peut-on écouter ce qu'il y a à ce moment précis dans votre tête ?
Mmh, écoutons.
Oh yeah. Certes, monsieur de Paris, certes. Je ne peux vous donner que raison, car cette année 69 fut effectivement particulièrement chaude. Mais je vais essayer d'exprimer avec des mots, peut-être un peu moins triviaux, pourquoi cette année 69 représente une révolution à 360 degrés pour l'Empire romain, ce qu'elle a de bouillant, politiquement parlant évidemment. En 69, l'Empire romain ne vit pas deux, ni trois, mais bien quatre, oui, quatre empereurs se succédaient en moins d'un an. Quel culbute, n'est-ce pas ? Et c'est l'histoire que je vais maintenant vous conter. Qu'y a-t-il, monsieur de Paris ? Vous avez l'air déçu et contrarié. Ne vous inquiétez pas, cette histoire n'est faite que de rebondissements, de félonies, de trahisons. Je vous promets du sang, mais pas de sexe. Ça devrait vous plaire. Un véritable reflet de la nature humaine.
J'avais envie de répondre, mais non, je te laisse continuer. Vas-y.
Non, on va éviter le dérapage.
Ouais, c'est clair.
Tout commence en 68, alors que la fin du règne de l'empereur Néron approche. Ce dernier est devenu alors tellement impopulaire que nombre de généraux se soulèvent un peu partout contre son autorité dans l'empire qui est déjà immense. C'est le cas de Vindex, qui est battu en avril 68 à Besançon, mais aussi de Galba, alors gouverneur en Hispanie, qui voit la garde prétorienne, formée de soldats d'élite chargés de la protection des plus hauts personnages de l'empire, le proclamer empereur. Dans le même temps, le Sénat déclare Néron ennemi public.
Ce dernier, déchu, s'enfuit de Rome et se suicide, assisté par son fidèle serviteur, qui n'est autre que son secrétaire, le 9 juin 68, en clamant « Ah, quel artiste meurt avec moi !» Entre parenthèses, vous avez là, monsieur de Paris, une phrase passe-partout que je conseille à tous pour son épitaphe. Le nouvel empereur est donc Servius Sulpicius Galba. Malheureusement, ce dernier, une fois arrivé à Rome, prend sa place et est devenu particulièrement impopulaire. Pourquoi ? Parce qu'il perd le soutien des légions, car il a refusé de leur donner le dona vitum, une sorte de 13e mois de l'armée romaine.
Déjà à l'époque.
Oui. C'est le cas notamment des légions de Germanie qui proclament pour s'opposer en fait à cette autorité de Galba. Le 1er janvier 69, le gouverneur Vitellius, qui devient alors empereur en Germanie. La même chose se produit en Lusitanie, où l'armée choisit un certain Othon pour être à la tête de l'Empire. Ce dernier encourage d'ailleurs 120 membres de la garde prétorienne, de celle-là même qui avait choisi Galba empereur en 68, à le piéger et à l'égorger le 15 janvier 69 en plein milieu du Forum de Rome. Ces conspirateurs régicides ont d'ailleurs la bonne idée d'inscrire leur nom sur une liste et d'offrir la tête de Galba à ce général Othon. C'est donc celui-ci qui est choisi par le Sénat pour devenir en janvier 69 le nouvel empereur romain. La première chose qu'il fait est de faire massacrer la garde prétorienne, en s'appuyant notamment sur la fameuse liste des 120 régicides précédents. Qui ne l'aurait pas fait avec de tels antécédents, n'est-ce pas ? Une fois la garde prétorienne purgée, il s'attaque à son compétiteur Vitellius, qui est le seul à ne pas reconnaître son autorité. Il part donc l'affronter, mais il est défait lors de la bataille de Bedriac par deux généraux fidèles de Vitellius, près de Vérone en avril 69. Découragé, après seulement 3 mois de règne, Othon se suicide à son tour. Vitellius, grand vainqueur de son combat de coq à distance, quitte la Germanie pour se rendre à Rome, où le Sénat le proclame empereur. Sur le chemin, son armée pille sans ménagement les contrées traversées, notamment en Gaule. Vitellius compte soumettre l'Italie par la terreur, ce qui lui vaut en fait une grande impopularité. Les armées de Danube et de l'Orient lui préfèrent un autre candidat, un certain Vespasien, gouverneur de Judée. Fort de ses soutiens, Vespasien part donc pour l'Italie affronter les armées de Vitellius à Crémone en octobre 69. Vitellius voit tous ses soutiens l'abandonner. Alors qu'il tente de fuir Rome, il est reconnu, capturé par la foule et lapidé. Son corps est traîné dans la cité éternelle et son corps est jeté dans le Tibre.
Autant pas faire les choses à moitié. Hein.
Non, c'est ça. Vespasien est le nouvel empereur romain. Il est suffisamment prudent pour essayer d'enraciner solidement son pouvoir. En décembre 69, il fait adopter la Lex de Imperio Vespasiani, qui liste l'ensemble de ses prérogatives et qui définit qui seront ses successeurs, à savoir ses fils Titus et Domitien. Cette année 69 est donc faite de retournements, de cabrioles, de violences aussi. Mais elle a engendré au final l'avènement d'un empereur relativement populaire qui a su donner naissance à la première ligne dynastique directe de l'Empire, bien que nous puissions dire que l'accouchement fut pour le moins difficile.
Préférons l'amour au sang, quand même.
C'est ça.
69, 4 empereurs, hallucinant. Toutes les infos du projet Vadrouille, c'est dans un instant sur notre site. Le temps de changer de plateau, Sophie, Laurane et Céline nous rejoignent pour parler de perturbateurs endocriniens. On change totalement de sujet, j'adore mon boulot. On écoute votre choix musical, les Scatolites, When I Fall In Love.
I'll never ever fall in love again. When I fall in love, there will be no other, only you and me in this whole wide world. If I should fall in love again, to me it would be a pleasure, if it don't take all my leisures away. Only you and me in
this whole wide world.
Nous sommes ce matin pour un sujet passionnant, un peu flippant, mais aussi où on va essayer de trouver des solutions. Nous sommes donc avec Laurane, Sophie et Céline. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler de perturbateurs endocriniens. Ça fait peur, mais bon. Je mange donc je suis en bonne santé. C'est un projet départemental qui a été porté par le réseau d'éducation à l'environnement, le Réel 48. CPIE de Lozère, vous avez toutes les trois bossé sur les perturbateurs endocriniens, donc vaste sujet, et je l'avoue, comme je disais, un peu flippant. Alors simplement, on va commencer de manière assez synthétique. Laurane, est-ce que tu peux nous dire ce que sont les perturbateurs endocriniens en quelques mots avant qu'on développe ?
En quelques mots, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, la plupart sont quand même artificielles, qui ont un impact sur le système hormonal des humains et des animaux. Donc, ils interfèrent avec notre fonctionnement naturel hormonal. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on verra après.
Qu'on va développer, ouais, c'est clair. Quel a été votre rôle à chacune dans le programme Je mange, donc je suis, trois petits points en bonne santé, Sophie ?
Eh ben, j'ai fait partie des personnes qui se sont portées volontaires après un petit appel du réel auprès de ses adhérents. Pour se former, aller un petit peu plus loin dans la connaissance du sujet, et puis aller faire des animations auprès de publics divers pour essayer de sensibiliser, questionner, apporter des réponses.
C'est ça, on parle de pédagogie, ce dont on manque peut-être encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on parle de ça depuis maintenant quelques années. Et toi, Céline ?
Moi, je suis exactement dans le même cadre que Sophie. Je suis arrivée un peu par hasard à la formation. J'ai découvert l'ampleur du problème et j'ai accusé réception de cette information et j'ai essayé de la transmettre avec calme et bienveillance auprès de gens divers et variés.
Bon, Laurane, ici, on te connaît bien sur cette antenne. Tu bosses pour le Réel. Vous avez été un instigateur de ce projet. En fait, l'idée, c'était de réunir des professionnels de la santé, de l'alimentation pour créer un programme où l'alimentation, entre autres, serait sans ces fameux perturbateurs endocriniens, c'est ça ?
Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il manque une quatrième personne à notre groupe, c'est Anna, qui est diététicienne. Elle est à Langogne et en animation aujourd'hui, et donc elle faisait partie du groupe d'animation. Et effectivement, nous, on a axé notre sujet sur les perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est 80% de l'exposition aux perturbateurs endocriniens.
Ah, il y en a énormément. Des perturbateurs endocriniens, en préparant cette interview, j'étais là, je fais, oula, alors, d'origine chimique. La liste est longue. Le plus connu, c'est le bisphénol A. Mais il y a aussi, donc on retrouve dans le plastique, hein, et jusque dans la fabrication des biberons, notamment. En clair, comment ils agissent, ces perturbateurs, et quels sont les risques pour l'organisme?
Qui se lance?
Ouais. Si on parle du bisphénol A, il se trouve qu'à l'origine, cette molécule était un œstrogène de synthèse qui avait été synthétisé pour servir à un usage hormonal artificiel sur les femmes. Et donc ça, c'était plutôt dans son histoire. Puis il a été abandonné en tant que tel, et on s'est rendu compte, oh merveille, que si on rajoutait ça dans un plastique, il pouvait lui donner des propriétés intéressantes. Donc en fait, on avait un peu oublié que son premier usage, c'était de venir agir sur les hormones. Et comme il n'est pas du coup, enfin, il peut être remobilisé, il n'est pas bloqué dans le plastique de manière absolument immuable. Et ben, on s'est rendu compte sur le tard que de rajouter cette molécule dans les plastiques allait agir, enfin pouvait agir, notamment sur les bébés qui buvaient le lait du biberon.
Faut comprendre que ouais, ça fait durcir le plastique en fait oui. Cette molécule. Que je comprenne bien aussi, c'est quelque chose dans lequel je me suis un peu perdu parce que le sujet est vaste. Hein, voilà, les hormones sont-elles un perturbateur endocrinien?
Non, les hormones sont issues du système endocrinien, qui est le chef d'orchestre de notre corps, qui régule quasiment tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, et les perturbateurs endocriniens viennent faire obstacle au fonctionnement normal de notre physiologie, pensée de manière absolument parfaite initialement.
Voilà. Il se trouve que les perturbateurs endocriniens ont une forme de molécule, un assemblage, qui mime la forme naturelle de nos propres hormones. Et donc, les hormones, c'est une question d'émetteurs, de récepteurs, et les perturbateurs endocriniens peuvent, en mimant la forme de l'hormone, se connecter à un récepteur humain et du coup induire une action qui n'était pas du tout donnée par notre corps ou souhaitée. Et des fois, ça induit une action, des fois, ça bloque une action, des fois, ça la fait dégénérer. Et donc, c'est en ça que c'est compliqué parce que c'est difficile de mesurer l'action, de l'anticiper, de savoir quel dosage il faut, enfin, voilà. Mais si tu parles des hormones que les humains peuvent prendre pour contraception, etc.
Par exemple.
Alors, c'est pas vraiment un perturbateur endocrinien parce que c'est volontaire d'oser mesurer. Après, peut-être qu'il y a des effets secondaires, mais en tout cas, c'est pas appelé comme tel. En fait, dans la définition, ce que j'ai oublié, c'est que ce qui est rajouté, c'est que un perturbateur endocrinien a un effet délétère sur un individu, une population, et c'est transgénérationnel.
Du coup, sur l'exemple des hormones, ça peut avoir un effet perturbateur en second lieu, c'est-à-dire, moi je me souviens de l'époque où en baie de Seine, on se rendait compte que les poissons changent de sexe. Et la première hypothèse, alors je sais pas quelles études ont été suivies après ça, mais la première hypothèse c'était que des hormones de synthèse utilisées sciemment pour un usage précis qu'on connaît finissaient par se retrouver en certaines quantités en baie de Seine et perturber l'écosystème. Donc ça, tout dépend à quel moment du cycle de vie de la molécule, quoi.
Je vous l'ai dit, auditeurs, auditrices, on va un peu flipper, mais on va aussi trouver des solutions après, en vrai. Les risques, est-ce qu'ils sont avérés? Donc, le premier risque auquel on peut penser, hein, c'est cancer.
C'en est un. Il y en a d'autres.
Allons-y, on est encore dans la...
On se fait un brainstorming, on en a chacun.
On se fait un brainstorming, c'est parti.
Alors, il y a des problèmes d'obésité, il y a des problèmes de diabète.
Donc on a dit les cancers, il y a tout ce qui est hyperactivité, troubles de l'attention.
Chez les enfants.
Chez les enfants. Mm-hmm.
Problème de développement du cerveau et de l'intelligence chez les enfants.
Augmentation de l'autisme notamment, énorme aux États-Unis par exemple.
En fait, il faut se dire que les hormones des humains régulent notre sommeil, la pigmentation de la peau, notre rythme cardiaque, notre taux de sucre dans le sang, notre humeur.
La température corporelle.
La température corporelle.
Oui, parce que ça peut jouer aussi sur la thyroïde, etc.
Exactement.
La thyroïde fait partie du système hormonal. Ouais.
Il y a un reportage qu'on trouve en ligne qui s'appelle « Demain tous crétins » qui commence à dater un peu. Mais c'est justement un jeu de mots entre crétin, dans le sens on perd des points de QI au fil des années, et le crétinisme qu'il y avait dans les Alpes et qui était lié à un manque d'iode. Et en fait, on s'est rendu compte que les perturbateurs endocriniens, en ayant un impact sur la thyroïde, avaient aussi un impact sur le développement neuronal. Donc du coup, effectivement, tout est lié, et vu que les hormones régissent tout, ça peut avoir un impact hyper complexe, diffus, multiple.
Ce qu'il y a dedans, c'est qu'on les trouve partout. C'est-à-dire que, alors je sais pas si c'est toi, Laurane, avec le réel qui avait fait tout un tableau, où est-ce qu'on les trouve. On peut les trouver dans les meubles, on peut les trouver dans les vêtements, on peut les trouver dans l'alimentation avec les pesticides.
Dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit.
Voilà, c'est complètement fou. Alors, la question est vaste. Je sais pas si on va avoir le temps de tout développer, mais on va essayer de synthétiser un max. Est-ce qu'on peut et comment on peut les éviter ?
Juste avant de les éviter, tu parlais donc de Demain tous crétins, il y a aussi un documentaire qui s'appelle La Grande Invasion, qui est intéressant et que les gens peuvent regarder, parce que ça raconte comment toutes ces substances se sont invitées sur notre planète et comment elles ont diffusé, comment la modernité et l'arrivée du plastique dans nos vies et du confort moderne tel qu'on le connaît a fait exploser les perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Mmh. C'est intéressant, ça reprend bien l'ampleur du problème.
Et tout ça est disponible sur YouTube, c'est clair.
Yes.
Pour citer une marque, enfin, en même temps tout le monde connaît. Donc voilà. Comment on les évite ? Comment qu'on fait ?
Alors.
On fait pareil, un tour de micro ?
Allez.
Toutes les solutions qu'on connaît ?
Eh ben, déjà, en mangeant, on peut choisir de manger des choses non cuisinées à l'avance, non emballées dans du plastique. Et de manger pas mal de fruits, de légumes, si possible bio. C'est déjà une première approche.
Et j'ai vu aussi cuire à la vapeur.
Peut-être en réponse au problème, les poils anti-adhésifs, qui ont un revêtement anti-adhésif, ça s'appelle les PFOA, c'est les composés perfluorés. En fait, quand on fait cuire nos aliments dans ces poils anti-adhésifs, les perturbateurs endocriniens migrent dans la nourriture. Et l'idéal, c'est de ne changer d'ustensile de cuisine, donc aller vers des matières inertes, inox, cuire à la vapeur dans du verre, parce qu'il y a beaucoup de cuiseurs vapeur en plastique. Donc c'est un peu un problème si on... En fait, ça favorise la migration quand on chauffe le plastique ou que le plastique est en contact avec un corps gras. Donc éviter tout ce qui est huile en bouteille, si on peut.
En bouteille, en plastique.
Ouais, en bouteille en plastique, tout à fait. Privilégier les bouteilles en verre. Et si possible, tous les corps gras, les prendre non traités, biologiques. Parce que certains pesticides sont avérés perturbateurs endocriniens.
Première solution.
Donc du coup, effectivement, ce qu'on mange, dans quoi on le cuisine, dans quoi on le stocke. Tu parlais de vapeur dans les fleurs en inox, ça marche très bien, par exemple. Et effectivement, troquer les Tupperware contre des bocaux en verre, tout bête, ça marche très bien. Aérer sa maison, parce que donc des perturbateurs endocriniens, il y en a qui émanent de à peu près tout ce qu'on a dans nos maisons, nos meubles, nos vêtements, tous les produits qui ont été traités en bois, mais aussi tout ce qui est en plastique. Donc la solution, c'est d'aérer tous les jours sa maison. Sa voiture aussi, parce qu'il y en a plein dans la voiture, il y en a dans les téléphones, il y en a dans les ordinateurs, il y en a dans tout ça. Donc comme on peut pas se débarrasser de tout et retourner dans des cavernes, aérons au maximum.
Et du coup, en amont de ça, plutôt que d'acheter neuf, par exemple, acheter d'occasion, bah déjà, il y a une bonne partie qui est partie. C'est tout bête, mais la récup est favorable.
Ça, c'est fou. C'est-à-dire que la question est peut-être naïve, mais il y a une durée de vie.
Pas vraiment, c'est enfin un petit peu, mais c'est que dans les mobiliers neufs, tout ce qui est colle et solvant, d'ailleurs on le sent quand on déballe un meuble à monter soi-même, souvent ça sent la colle, les vernis, les solvants. Et laisser aérer, je crois l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé, conseille 3-4 jours en extérieur. Et notamment, enfin on l'a pas dit, mais il y a deux périodes de la vie où on est particulièrement vulnérable. C'est les deux périodes où on a un pic hormonal et une grosse phase de développement. C'est les 1000 premiers jours de la vie. Donc quand on veut avoir un enfant ou quand on est enceinte ou jeune parent, on évite vraiment d'exposer le fœtus à ces substances-là jusqu'à c'est un an et demi à peu près, puis le plus longtemps possible si on peut. Et la deuxième phase critique, c'est l'adolescence, où de nouveau, il y a un pic hormonal. Et donc là, il ne faut pas qu'il y ait de bouleversement de ce système-là. Et donc, ce qu'on fait très souvent quand on va avoir un bébé, c'est qu'on se remet à faire les travaux, on fait la peinture de la chambre, on change le mobilier, on fait la décoration, etc. etc. Et c'est plutôt à éviter. Et donc, si on le fait, faire un maximum de choses en aérant tout le temps, pour pas que le bébé soit en contact avec ces substances-là, quoi.
Alors, la question est, avant qu'on en vienne à une autre notion super intéressante, voilà, est-ce qu'un monde sans perturbateurs endocriniens est aujourd'hui possible?
Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une durée de vie? En fait, quand on aère, ils meurent pas, les perturbateurs endocriniens, par contre, ils partent dans l'air, dans l'eau, dans la terre. Donc, c'est pas vraiment une solution. On leur propose d'aller ailleurs que dans nos poumons ou dans notre sang ou tout ça. Mais malheureusement, ils persistent et ils perdurent. Je voudrais pas m'avancer, mais je crois qu'on est dans un monde qui est quand même bien imprégné, et avant qu'on arrive à débarrasser la planète de tous les perturbateurs endocriniens, il y a du boulot, déjà récupérer tous les microplastiques qui se baladent sur la Terre et dans l'océan, enfin, changer notre air.
Même arrêter la production, c'est vraiment compliqué de se dire qu'on peut se passer d'objets, de molécules synthétiques. Rien que les habits. On a très peu d'habits en fibres naturelles. Le coton, c'est très connu. Mais je sais qu'au tout début, quand on faisait l'animation éducation environnement, on disait c'est super, les bouteilles d'eau minérale en plastique, on les recycle et avec on fait des polaires, des pulls polaires. Donc super, c'est une seconde vie. Et maintenant, on se rend compte que les pulls polaires, quand on les passe à la machine, les petites fibres de PET se mélangent à l'eau et elles sont tellement fines qu'on a du mal à les filtrer. Donc on les boit ensuite via le robinet et l'eau en bouteille, quoi.
Ou via les poissons qu'on mange, ou les...
Voilà, c'est ça. On ingère quotidiennement des toutes petites particules de plastique, de l'échelle macro à l'échelle nano, qui passent la barrière de la peau.
Laurane, dont on va aborder une notion assez intéressante. Tu m'as envoyé un super schéma que j'ai pas compris, mais qui représente un ADN. Et zipper, dézipper. Alors, cette notion, je la connaissais pas. Qu'est-ce que c'est donc et qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça?
Oui, c'est qu'en tout début de projet, on a suivi une formation, donc toutes les quatre, où on a fait intervenir Isabelle Farbos, qui est docteure en épigénétique. Donc, c'est quelqu'un qui étudie comment l'environnement, tout ce qui nous environne, peut influer sur la lecture de nos gènes, donc l'expression de nos gènes. Et donc, on a découvert que dans nos cellules ont un noyau, dans nos noyaux, il y a des chromosomes, et les chromosomes contiennent notre ADN. Notre ADN, il fait à peu près, si on le dépliait, 2 mètres de long. Donc, pour rentrer dans chaque cellule. Donc, pour rentrer dans un chromosome, l'ADN est totalement enroulé sur lui-même, en hélice, puis en spirale, puis en hélice, enfin vraiment très très compacté, donc on peut dire qu'il est zippé. Et donc l'ADN, c'est ça qui va coder la réplication d'une cellule, une action, etc., etc. C'est ce qui fait que une cellule va devenir une cellule de foie ou une cellule de l'œil ou une cellule de peau, etc., etc. Et sauf qu'on s'est rendu compte que les perturbateurs endocriniens, mais pas que, le stress, y a plein de facteurs qui jouent, peuvent empêcher l'ADN de se dézipper, de s'ouvrir pour être lu et donc générer une action. Et donc cette question de zipper, dézipper, tout ce qui est néfaste méthyle l'ADN, donc le garde zippé, et il y a des choses qui le dézippent, et on a découvert via cette docteure que, par exemple, en laboratoire, le brocoli contient une substance qui s'appelle le sulforaphane. Cette substance, elle dézippe l'ADN, donc elle pourrait contribuer à contrecarrer l'effet néfaste des perturbateurs endocriniens.
Faut savoir aussi que derrière ce fameux ADN est transmis. Donc en fait, ça rejoint aussi des thèses un peu naturalistes du 19e siècle qui disaient est-ce que l'alcool, le tabac, tout ce qui est nocif et donc forcément des perturbateurs endocriniens pourraient partager avec la génération
future. Tout à fait, c'est transgénérationnel, il y a des éléments de notre ADN, même si ça ne change pas le codage de l'ADN, ça change sa lecture, ça on peut le transmettre d'une génération à l'autre.
Alors, on en a parlé vite fait tout à l'heure, vraiment en essayant de savoir si un perturbateur endocrinien pouvait disparaître. Est-ce que quand on a ingéré ces substances dans l'organisme, est-ce que on peut s'en débarrasser?
Ça dépend desquels, je crois.
Et moi, j'ai cherché un peu là-dessus, puisque je m'intéresse bien aux plantes et à la manière dont on peut se dépolluer avec les plantes. Et en fait, je crois qu'on n'est pas encore très avancé sur la connaissance de ça. Enfin, c'est quand même assez récent, le fait qu'on... déjà qu'on ait défini la notion de perturbateur endocrinien, qu'on reconnaisse la question d'un point de vue scientifique et que les scientifiques travaillent dessus maintenant. Et donc on peut, par exemple, le brocoli et le sulforaphane, un des modes d'action des plantes de la famille des crucifères avec les molécules soufrées, c'est aussi de permettre de nettoyer le corps. Donc on peut subodorer qu'il y a plein de réponses intéressantes à trouver sur comment se dépolluer, mais je crois qu'on n'est pas encore très avancé, que les recherches sont encore à développer. Par exemple, je sais que toutes les plantes qui peuvent être riches en silice organique, notamment l'ortie, la prêle, etc., sont des dépolluants qui permettent d'éliminer des toxiques. Bon, voilà, c'est quelque chose d'un peu global que je dis là. Je pense qu'il y a vraiment des choses très plus fines à développer, à mener là-dessus, quoi. Il y a sûrement plein d'espoir, mais pour l'instant, on n'est pas si avancé que ça sur la question, je pense.
Puis c'est qu'on ne peut pas mettre les perturbateurs endocriniens, enfin tous au même niveau. Certains ne sont pas du tout persistants. On les trouve dans l'urine dès le lendemain, au bout de quelques heures où on a été exposé. Et d'autres restent, on a des traces dans les cheveux, dans la peau, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Et vu qu'on est exposé de manière diffuse au quotidien, même si on fait une détox, on s'en réimprègne plus ou moins. Voilà.
Donc l'idée pour l'instant, au stade de nos connaissances, c'est de limiter les risques et d'essayer d'éviter tout ce qu'on sait être néfaste. Après, on a bien conscience que c'est... Certes, on peut faire des efforts individuels, mais ça ne passera que par des choix politiques et globaux, quoi.
Et même nous, en tant que consommateurs aussi, à commencer à réfléchir aussi différemment. On a l'impression quand même que le gouvernement met en place des choses, justement. Besoin d'un peu plus de pédagogie et justement d'essayer de nous expliquer ce que sont ces perturbateurs endocriniens et savoir, tu le disais Laurent tout à l'heure, qu'il y en a qui peuvent, enfin 10, 15, 20 ans après, causer des cancers. Est-ce qu'on en fait assez au niveau de la pédagogie ?
Au niveau de la pédagogie, ben, là c'est un peu le tout début. En fait, en France, le gouvernement a signé la seconde stratégie sur les perturbateurs endocriniens. Donc on a là sous les yeux un communiqué de presse des ministres de la Santé qui s'engagent là-dessus. Donc ça veut dire qu'ils débloquent des fonds pour payer des acteurs de la recherche pour améliorer la connaissance, payer des associations comme nous pour diffuser un message, sensibiliser, informer. Donc il y a des crédits qui sont débloqués, qui dit argent dit action, donc ça avance. Un des problèmes qu'on voit, c'est que si on prend l'exemple du bisphénol A qui a été interdit en France dans les biberons, puis dans tous les contenants alimentaires, donc c'est un vrai progrès. Le problème, c'est que les industriels, pour compenser le bisphénol A...
Ils ont inventé une autre lettre.
Voilà, le bisphénol S, qui du coup, c'est permis, donc on remplace. Et en fait, on se rend compte que les premières études sont déjà alarmantes et qu'on se dit, mince, en fait, l'effet peut être pire que le bisphénol A. Donc c'est toujours... vaut mieux faire principe de précaution, éviter le plus possible tout ce qui est matière synthétique, et qui n'existait pas il y a 300 ans, quand on n'avait pas encore de plastique, et qu'on était entouré de bois, métal, verre, d'éléments naturels, quoi.
Des fois, on se dit un pas en avant, trois pas en arrière. vous avez proposé ou suivi des ateliers, des événements pour sensibiliser aux perturbateurs endocriniens. Comment ça s'est passé? Quels étaient ce que ressentaient les gens qui ont suivi ces ateliers?
Il y a eu quelques cris d'alarme. En fait, on a travaillé pas mal avec les crèches, avec le personnel des crèches, puisque c'est une fenêtre particulièrement importante, les premiers jours de la vie. On a travaillé aussi avec les jeunes, notamment au lycée hôtelier, avec des personnels de santé. Et globalement, même si on le sait tous, qu'on est dans un environnement qui est pas tout à fait sain, ça fait la prise de conscience est quand même brutale et voire anxiogène. Voilà. Donc, on essaye aussi de temporiser ça, sachant que le stress est un perturbateur endocrinien et que donc on met aussi l'accent sur le fait que il est particulièrement important de rester vigilant à garder son calme, sa positive attitude et à cultiver son jardin du bien-être et du bonheur avec amour et attention. Donc on essaye aussi d'attirer l'attention des gens là-dessus. C'est important d'être conscient, c'est important de faire des progrès, c'est important de s'améliorer et c'est important aussi de rester serein.
Notamment, il y a des études très sérieuses qui montrent que la moitié de la guérison, quelles que soient les perturbations qu'on a dans, qui amènent la maladie, c'est le lien social, c'est voilà, toutes les petites occasions de bonheur, d'échange, c'est les balades dans la nature, c'est tout ce qui nous relie au monde. Et en fait, on a vraiment dans notre corps un pouvoir d'auto-guérison qui est développé de cette façon-là. Donc, on parle de ça aussi, et dans toutes les animations, c'est des choses qui sont ressorties un peu en conclusion. On fait un petit photolangage à la fin, c'est-à-dire que les gens choisissent une image qui exprime ce qu'ils ressentent à la fin de l'animation. Et à chaque fois, vraiment, il y a eu des choses très très fortes et très belles dites par certains d'entre eux, alors que d'autres, effectivement, pouvaient exprimer le fait qu'ils étaient affolés et un peu que c'était un peu désespérant. Mais donc, on essaye de mettre en avant le fait que le stress n'est pas bon conseiller et n'aide pas à guérir. Donc
se concentrer sur ce qui fait du bien. Voilà. La docteure en épigénétique disait méditer, écouter de la musique, rigoler, ça dézippe l'ADN. Allons-y, quoi. Se concentrer là-dessus.
Faire de la communication non violente, elle disait aussi. Oui. On a vraiment beaucoup apprécié cette personne. On adhérait 100% dans nos pratiques pédagogiques.
Et justement, ça va être la note un peu pour finir, puisque avec le réel, vous avez demandé, Lorraine, une subvention pour jouer.
Oui, alors ce projet-là, c'était un projet qui était financé par la DRAF, donc Occitanie, donc c'est la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Ce projet se termine. Et là, on est en train d'élaborer un projet pour concevoir et animer et faire tourner un escape game sur les perturbateurs endocriniens, où en gros, on serait dans une sorte de studio, on recrée un studio pour un adulte, et on essaye de désamorcer un compte à rebours de 50 minutes qui correspond à... En fait, dans les études, là, on se rend compte qu'on a perdu en 50 ans à peu près 50% de la fertilité, notamment à cause des perturbateurs endocriniens qui viennent interférer. Et donc l'idée, c'est qu'il reste 50 ans. Dans 50 ans, est-ce qu'on aura perdu 100% de fertilité ou pas? Et donc on désamorce ce compte à rebours en remplaçant des éléments problématiques, cosmétiques, alimentation, etc., qui pourraient en contenir, par des alternatives et sauver l'humanité. En fait, là, c'est justement une thématique particulièrement anxiogène parce que ça touche l'humain. Là, on ne parle pas des petits papillons, des vers de terre qui déjà nous rendent sensibles. Mais là, on parle de nous et nous-mêmes, les animatrices, là, on a eu un petit coup de blues après la formation. On s'est dit, oula, on était particulièrement impactés par ce projet. Donc, sous forme de jeu, ça passera mieux, on se dit.
Et surtout, sous forme de jeu, ça touche un autre public, qui est le public des adolescents, qui sont particulièrement sensibles et fragiles dans leur étape de vie aux perturbateurs endocriniens et qui sont un peu... réactifs quand on leur tient le langage pédagogique habituel. Et donc, il faut trouver d'autres stratégies pour leur permettre de prendre conscience de ça sans pour autant devenir complètement dépressif non plus.
Et l'autre axe, ça serait de sensibiliser, d'informer, donner des billes aux élus, puisque, par exemple, au niveau de la région Occitanie s'est engagée dans une charte sans perturbateurs endocriniens, et c'est la région notamment qui s'occupe des lycées, donc on peut imaginer que tout ce qui est rénovation des lycées, des surfaces de sol, des produits ménagers, faire les choix des produits.
Les offres publiques, ouais.
Pour les offres publiques, c'est ça. Dans le cahier des charges, il pourrait être indiqué sans perturbateurs endocriniens. Donc il y a du progrès, il y a de quoi encore faire. Et les élus, c'est des publics importants.
Auditeurs, auditrices, je vous avoue que j'ai flippé au début en préparant ces interviews. Moi, je sors de là plutôt avec le sourire et beaucoup d'espoir. Si le sujet vous intéresse, c'est à voir sur YouTube, Demain tous crétins ou La Grande Invasion pour vraiment vraiment vous informer encore et encore. Merci à toutes les trois d'être venues nous éclairer un peu là-dessus. C'est bien, il y avait plein de sourires. Et est-ce que vous voulez choisir, Céline par exemple, un petit morceau à écouter là tout de suite?
Antiperturbateur endocrinien. Moi, je pense que l'antidote numéro un, c'est l'amour avec un grand A. Donc si t'as une chanson qui parle d'amour avec un grand A, mais pas de ceux qui finissent mal, tu vois, okay. De l'amour qui fait du bien, quoi.
Alors, je te propose Quand on a que l'amour de Jacques Brel.
Allez, oh, c'est magnifique.
C'est parti. À très bientôt.
Merci.
À tous les trois.
Merci à vous.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve évidemment mercredi. Prenez soin de vous. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci Corto.
Avec grand plaisir, Ben.
Et voilà, et comme on le dit, c'est quand on a que l'amour, Jacques Brel. À mercredi, ciao.
À s'offrir en partage un jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour. Mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on a que l'amour pour parler entier.